Scrabble.
Bien joué Jean-François, camembert jaune.
Non mais là on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça on sera tranquille, on aura de la marge.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration. Hein ? Ça, on joue pas aux petits chevaux là, là c'est la cour des grands là.
Olivier Mine, c'est la carte mystère.
Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens.
Veuillez m'excuser, cette dernière main a failli me tuer.
C'est un sort, Will !
Je sais pas quoi faire !
Balance-lui une boule de feu !
Il faut que je fasse au minimum 13 !
Non, c'est trop risqué !
Vous entrez dans le mystérieux club des platistes. Ici, on est obligé de s'amuser. Les rabat-joie ne sont pas les bienvenus. Nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois, de 13h à 14h sur Prune. Tous les mystères de l'univers du jeu de société vous seront révélés. Vous découvrirez les nouvelles sorties, l'histoire d'un jeu de société et les plus noirs secrets du business ludique. À vous de jouer.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la seconde émission du Club des Platistes sur Prune 92 FM. Ce midi, nous allons nous intéresser à nos partenaires de jeu. Avec qui jouons-nous ? Qui sommes-nous quand nous jouons ? Quels sont les profils de joueurs ? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Cyrielle.
Bonjour.
Azilis.
Bonjour.
Brian.
Salut.
Et à la technique, Antoine.
Salut.
Pendant cette émission, Cyrielle fera un tableau des différents types de joueurs. Annalise analysera le jeu en famille. Brian nous parlera des communautés de joueurs. Et à partir de l'exemple d'un jeu célèbre, j'évoquerai les jeux pour jouer à deux ou en solo. Ensuite, nous jouerons au jeu Mascarade. Et l'émission se conclura sur la chronique d'actualité Quoi de neuf ? Azilis et Antoine ont été au salon Paradise au mois d'octobre. L'occasion d'interroger des joueurs et joueuses sur différentes questions. Les réponses vont ponctuer cette émission.
Notre association s'appelle Board Games, donc c'est une association qui se repose sur le jeu de société. Et donc régulièrement, en cours d'année, on fait des soirées au cours, dans notre école qui s'appelle des Games Night. Et donc, on fait des jeux de société avec les gens de notre école.
Oui, ils sortent leurs jeux et puis voilà, il y a des tables, on choisit un jeu et puis on y joue. Si besoin, on peut nous expliquer les règles.
Et sinon, ben, on avait prévu donc d'organiser un festival autour du jeu de société, comme c'est le cas du Paradise Festival. On avait aussi organisé, quand on avait pu, donc des escape games au sein de notre école. Donc on faisait un peu nous-mêmes. Et aussi animer, en fait, faire des soirées à thème. Donc, par exemple, on avait fait un gros loup-garou aussi dans une salle. Et on avait fait aussi on avait animé du poker.
Alors, puisque c'est les élections aux États-Unis en ce moment, c'est une énigme qui se passe au Texas au 19e siècle. Donc, quatre cow-boys entrent dans un saloon. Ils s'installent autour d'une table. La table est éclairée par une bougie. Qu'est-ce qu'ils font ?
Ils jouent aux cartes ?
Réponse dans une heure maintenant.
Oh, j'ai trop hâte.
Oui. Donc on est toujours sur Prune, 92 FM, et vous écoutez le Club des Platistes. On va s'attaquer à la thématique de notre émission et parler des types de joueurs. Mais déjà une première question à mes partenaires de table. Êtes-vous bon ou mauvais joueur ? Oh, je vois Brian rire.
Oui, bah, je rigole tout de suite parce que moi je dirais que je suis bon joueur, mais je dirais que toutes les personnes avec qui je joue diraient que je suis mauvais joueur. Après, c'est pas parce que plusieurs se trompent qu'ils ont raison. Mais oui, je partirais plutôt du principe que je suis plutôt mauvais joueur. Même quand je gagne, j'aime bien répéter plusieurs fois que j'ai gagné.
Voilà. C'est bon à savoir, on le saura à l'avenir.
Moi, je me reconnais un petit peu dans ta description. Ouais. Je me sens pas mauvaise joueuse à partir du moment où c'est normal si j'ai perdu. Mais si c'est pas normal que je perds, bah, j'estime que je dois revendiquer quand même mes droits.
Exactement. Ah bah oui.
Et qu'il y a des fois, c'est trop injuste de perdre alors qu'en vrai, j'aurais dû gagner.
C'est bien de revendiquer, je suis d'accord. Moi, je pense que je suis plutôt bonne joueuse parce que je perds tout le temps, donc j'ai l'habitude. Mais par contre, les fois où je gagne, j'arrête pas d'en parler. Là, j'ai battu mon ami Thomas pour la première fois depuis 12 ans d'amitié. Et je tiens à ce que tout le monde le sache sur les ondes.
Je pense que mes ex-copains se souviennent encore de mes parties de jeux de société avec moi. Ça a peut-être fait partie de nos ruptures.
Thank you.
Donc on joue plusieurs fois par semaine, aussi bien le soir que le week-end. On fait aussi des sorties dans les bars à jeux, ce genre de choses.
On joue beaucoup parce qu'on a eu pas mal de soirées entre amis.
On a des cercles où on va jouer plus à des gros jeux de 3, 4, 5 heures. Et d'autres où ça va être plutôt du jeu d'ambiance pour un petit peu animer la soirée, etc.
Soit de la réflexion, du jeu de stratégie très complexe, souvent aussi, moi j'aime beaucoup. Enfin, chose très complexe, le but c'est vraiment d'essayer de prévoir ce que l'adversaire va faire pour essayer d'anticiper comment il va jouer, d'anticiper ce qu'il faut faire pour contrer sa stratégie.
J'aime bien plutôt les jeux coopératifs. Ouais. Comme ça, tout le monde est un peu content quand on arrive à la fin.
Sorte de jeu, globalement. On va jouer à des jeux très très rapides, des fois en attendant le plat, par exemple, à l'apéro, ou des fois on va faire des soirées, voire des après-midi, avec des jeux beaucoup plus longs, beaucoup plus complets en général.
J'aime bien suivre les règles scrupuleusement. C'est pas toujours l'avis de tout le monde.
Parfois, ça peut arriver de vraiment être dégoûté d'avoir perdu.
Je pense que quand je joue, je me relâche en fait. Je suis plus libérée en jouant que dans la vie, peut-être.
Je pars souvent du principe que je vais perdre, donc ça va. Ça se passe bien.
Généralement, on s'attaque à des gros jeux avec des personnes qui peuvent tenir les gros jeux. Mais on sait que quand on arrive par exemple au bout de 24 heures, souvent il y a un peu plus d'énervement ou un peu plus, ce qui est normal.
Moi j'aime bien quand on va venir un peu s'embêter, voilà, tout ça. Je suis pas du tout mauvais joueur, moi, du coup. Parce que, enfin, genre, tant pis quoi, c'est perdu, on recommence une partie par contre, parce que j'aime bien gagner.
Des fois, mon copain il me dit que je suis mauvais perdant. Mais en vrai, c'est pas vrai.
Bien, merci pour ce petit micro-trottoir. Pour mieux comprendre les profils de joueurs, je vais laisser la parole à Cyrielle.
Alors, aujourd'hui, je vous ai fait une liste de types de joueurs que nous pouvons rencontrer autour d'une table de jeu. Cette liste est évidemment caricaturale et non exhaustive. Et j'espère que vous vous reconnaîtrez dans une ou plusieurs de ces descriptions. Je vais commencer par le party gamer. C'est ceux ou cette joueur qui vient souvent en meute de 5 à 8 personnes. Son but, c'est crier fort, rire fort et s'amuser. Pour cette catégorie, le jeu rime avec bruit et délire. Si elle voit qu'à la table d'à côté, les autres rient plus qu'à la sienne, elle n'a pas l'impression de s'amuser. Le party game est le seul type de jeu auquel elle veut jouer. Tous les autres jeux sont trop longs, trop complexes, trop chiants. Mais à l'opposé, il y a le gamer. C'est cette catégorie qui inclut toutes les personnes qui aiment les grosses, les longues, les dures, je parle de parties bien évidemment, si le jeu dure moins de 90 minutes, la personne aura l'impression de jouer à un party game. Si la règle fait moins de 35 pages, elle aura l'impression de jouer à un
party game.
Si elle n'a pas plus de 12 000 figurines, 12 000 petits cubes en bois jaune, rouge ou vert fuchsia, elle aura l'impression de jouer à un
party game.
Et le gamer, elle, est party game, fallait préciser tout de même. Pour lui, rire est une perte de temps. Il faut réfléchir, il faut transpirer des neurones. Il y a aussi le paralyseur. Je l'aime pas trop, moi, le paralyseur. Cette catégorie aime prendre son temps. À chaque fois que c'est son tour, il ou elle bloque le flux de la partie en réfléchissant le double ou le triple de temps que les autres. Même un jeu fluide et court devient avec lui un jeu long et lent. Son ennemi juré est l'impatient.
Alors, moi, ce joueur-là, je le connais. Il est pratique quand t'as envie d'aller fumer une cigarette, je dirais. Mais par contre, que quand t'es en plein jeu, c'est le genre de personne. J'ai un peu du mal à jouer avec parce que les parties, des fois, d'une demi-heure peuvent durer deux heures. Souvent, je trouve que tu retrouves ça chez les joueurs qui ne sont pas très joueurs, justement. Les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, je trouve qu'ils prennent beaucoup de temps. Ou les personnes qui veulent jouer et gagner, forcément.
C'est vrai. Voilà.
Tu le connais, donc tu veux dire que tu connais mon père ?
Ah, ben peut-être. Je l'ai croisé sur Grindr.
Du coup, à l'opposé du paralyseur, moi, je me reconnais un petit peu plus dans l'impatient. C'est cette personne qui n'aime pas trop attendre. Elle a besoin que le jeu se joue vite. Si elle doit attendre plus de 7 secondes, elle trépigne et perd patience. Il faut que ça pop. Elle préfère les jeux rapides et fluides. Son ennemi juré est forcément le paralyseur.
Oui, ça me rappelle les parties de Scrabble.
Ah. Je me reconnais aussi dans cette catégorie, et c'est un petit peu pas très logique, mais tout de même, personne n'est parfait. C'est le boucher.
On n'a pas encore commencé à expliquer les règles que déjà le boucher dit ne pas les comprendre. On a beau ensuite lui expliquer les règles 17, 18 fois, il ou elle ne les comprend toujours pas. Son ennemi juré est l'impatient. Logique. Ce qui est moins logique, c'est que je suis mon propre ennemi juré. Ensuite, je vous présente la pieuvre. Avec le développement des technologies, cette personne est constamment en train de faire 20 000 choses en même temps. Téléphoner, envoyer des WhatsApp, lire ses mails, surfer sur le web, lire ses tweets, faire un TikTok. Évidemment, quand c'est son tour, il faut à chaque fois un moment pour se remettre dans la partie. Elle est l'ennemi juré de l'impatient, mais le meilleur ami de son fournisseur d'accès Internet. Est-ce utile de présenter cette catégorie ? Je pense que je suis un petit peu obligée, c'est le tricheur. Ce type de joueur et de joueuse triche consciemment ou pas, en changeant les règles en sa faveur, en modifiant des valeurs, en se servant de la banque, etc. Il finit d'ailleurs souvent par gagner, comme par hasard.
Le tricheur, je trouve, et celui qui ne comprend pas les règles, des fois peuvent se réunir. Il y en a qui trichent aussi. En disant qu'ils ne comprennent pas les règles, alors qu'ils ont très bien compris.
Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas cette personne.
Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on met dedans les enfants ? Les enfants qu'on laisse gagner, est-ce qu'on considère que c'est de la triche ? Moi, je suis contre.
Alors, si c'est toi qui les laisse gagner, c'est qu'ils n'ont pas triché, c'est que c'est toi qui as modifié les règles.
Et est-ce que c'est pas enfin, ça, tricher inconsciemment ? Non, c'est tricher involontairement, à l'insu de son plein gré.
Tricher inconsciemment, c'est quand tu dis bah, « je vais m'occuper de la banque au Monopoly et c'est toi qui vas compter les billets, mais finalement tu t'en rajoutes toujours un pour toi. » Mais t'as pas fait exprès, les billets étaient collés.
Pas mal conscient quand même.
On ne sait pas.
Je ne jouerai pas au Monopoly avec Cyrielle.
Ah, faudrait qu'on teste un Monopoly une fois. Bon, je me reconnais aussi dans cette catégorie, après je m'arrête là parce que je me suis assez auto-flagellée. C'est le Calimero. Cette joueuse ou ce joueur se plaint tout le temps et a l'impression que la terre entière s'en prend toujours et uniquement à lui. Dès qu'une autre personne lui fait une crasse, elle se braque pour le reste de la partie et est presque envie de quitter la table. De toute façon, tout le monde est contre elle, son ennemi juré, le fourbette, qui adore du coup s'en prendre à elle, qui est la victime toute trouvée.
Est-ce que du coup on doit s'attendre à ce que tu quittes l'émission quand on va jouer ?
Peut-être, ou que je me mette à pleurer, que je lui dise c'est trop injuste, vous faites pas attention à moi. Je ne sais pas, faites attention à moi, laissez-moi gagner, c'est tout.
Est-ce que le fourbette c'est aussi celui qui vient être fourbe justement avec ses adversaires dans les jeux ?
Ah j'en viens, le fourbette, je vais en parler, ce sera ma dernière catégorie et j'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous convient à vous. Mais j'ai l'impression que ça t'anime un petit peu, Brian.
Ah, ça m'a tout de suite parlé, on va voir ce que ça donne.
Le fourbette, aussi communément appelé le traître, ou plus simplement l'enfoiré. Ce type de joueur ou de joueuse adore les jeux d'enfoiré dans lesquels il peut trahir à tire-larigot. Coup dans le dos, alliance, mensonge, bluff, le fourbette se délecte de manigances, manipulation et tromperie. Ses jeux préférés, diplomatie, BSG, rencontre cosmique, loup-garou et consort. Il y a des jeux qui t'animent ?
Ah moi c'est tout à fait moi. Moi je pensais à Résistance Avalon pour ceux qui connaissent, où c'est un jeu justement où il y a des méchants, des gentils, mais sans élimination. Mais il faut clairement bluffer devant ses potes. Du coup, moi je suis pas du tout jeu collectif. Au contraire, moi j'aime bien les jeux où on prend un rôle et on essaye en fait d'entourlouper ses amis. On leur fait penser qu'on est des gentils, alors que pas du tout, pour pouvoir juste leur mettre ça dans la face à la fin en disant « tu m'as cru toute la partie ». Rien qu'en parler, ça m'anime un peu.
Ouais, je sens et j'ai déjà les larmes aux yeux à l'idée de jouer avec toi. J'ai trop peur parce que je vais être ta chose en tant que Calimero. En tout cas, pas moi. En tout cas, je tiens quand même à remercier le site de Gus & Co où il y a énormément de types de joueurs, une liste bien plus longue que celle que j'ai pu vous présenter aujourd'hui en espérant que vous êtes retrouvés au moins dans une catégorie.
Bien, j'ai eu du mal effectivement à me situer dans une catégorie précise dans celle proposée. Mais si je peux me permettre, voilà, je me qualifierais de revanchard.
Ah.
Si je perds, je vais garder le sourire, mais je vais refaire une partie tout de suite.
Ah.
Pour prouver que c'était juste un petit accident. Alors voilà, donc sur Prune, des rires, des larmes, des trahisons, rencontres cosmiques, du bluff, de la compétition. Merci beaucoup Cyriel pour nous avoir donné les premiers éléments de réponse et défini un petit peu le cadre. Nous allons maintenant écouter The Clash, The Card Sheet.
Le club des platistes sur Prune 92 FM.
Vous êtes au Club des Platistes sur Prune 92 FM et vous venez d'entendre The Clash. Je laisse la parole à Azilis pour développer le jeu en famille.
Ça, souvent dans le cercle de personnes qu'on connaît, ou soit des amis, soit de la famille. Rarement avec des gens qu'on connaît pas plutôt.
Avec la famille.
Avec lui.
Ouais,
on joue ensemble, ouais. Ou sinon avec des amis ou de la famille.
Je joue à la bataille avec mes petits-enfants aussi.
Principalement notre cercle d'amis. Moi, quasiment tous mes potes depuis le lycée, surtout toutes mes rencontres, jouent à peu près aux jeux de société.
Amandine, c'est ma compagne. On a une passion pour les jeux de société. On joue principalement tous les deux. Occasionnellement, on joue avec des amis d'autres personnes, mais c'est vrai que principalement, ça va être des jeux où on joue tous les deux.
Plutôt avec mes amis, un peu avec la famille des fois, mais c'est encore plus irrégulier.
Puis dans nos soirées entre amis aussi, on joue pas mal aux jeux de société.
Avec mes amis, ma famille, ma famille d'autre part.
Il y a des jeux qui sont plus amis, qui sont un peu plus complexes, des jeux un peu plus longs, un peu plus complexes, et puis les jeux un peu plus rapides ou simples à comprendre, un peu plus pour la famille quand il y a les enfants ou les grands-parents par exemple.
Intermédiaire, simple, novice pour la famille, et puis avec les amis c'est plus des jeux experts, des jeux plus longs des fois, ou des jeux un peu plus drôles, mais peut-être plus adultes ou autres. Qui peuvent mettre de l'ambiance en fait.
Avec ma famille, ce sera plus des plus grands jeux de plateau, du style Seven Wonders ou Catan, alors qu'avec les amis, c'est plus des petits jeux de bluff, un peu rapides, amusants.
On associe le jeu de société à la famille. C'est l'occasion de passer un moment ensemble autour d'une table. Souvent dans les familles, il y a quelques jeux qu'on a et auxquels on a joué une centaine de fois qu'on connaît par cœur. C'est le thème d'un court-métrage un peu rigolo et un peu inquiétant, des Parasites, qui s'appelle Jeux de société. On va en écouter un extrait.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Évidemment, puisque c'est...
Les meilleurs jeux !
On joue à cette partie depuis des générations. Mon père, mon grand-père, etc.
Désormais, on joue de plus en plus entre amis. Pendant une soirée, on sort un petit jeu rapide, ou même on organise une soirée entièrement consacrée à ça. Il y a aussi la possibilité de le faire à l'extérieur avec les bars à jeux. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petites tensions dans ces soirées jeux. Et ça ne va pas être les mêmes jeux selon qu'on joue avec sa famille ou avec ses amis. Avec la famille, c'est les jeux familiaux, ça paraît logique, de 7 à 77 ans, comme c'est marqué sur la boîte. Donc pour que toute la famille puisse jouer, il faut que ces jeux soient compréhensibles et accessibles aux enfants, sans que ce soit chiant pour les parents. Et il faut que les grands-parents... ait envie d'apprendre les règles, donc il ne faut pas qu'elles soient hyper compliquées. Parmi ces jeux, il y a des classiques comme le Trivial Pursuit, qui n'est pas forcément la meilleure idée, parce que souvent on a une boîte qui date des années 80, donc c'est toujours les parents qui gagnent. Il y a aussi des jeux plus récents parmi les jeux familiaux, bien sûr, notamment ceux qui s'appuient sur les images. Ça permet d'enlever l'obstacle de la lecture pour les enfants, Dixit ou la version image de Codenames. Avec Cyrielle, on a été aux Utopiales et on a joué à un de ces jeux basés sur des images. C'est un jeu qui s'appelle Perfect Shot. Alors vous allez vous demander, mais pourtant Cyrielle et moi n'est pas de la même famille. Oui, c'est vrai, on a quand même le droit de jouer à des jeux familiaux quand on n'est pas de la même famille. C'est un jeu à partir de 8 ans. Comme la plupart de ces jeux, c'est des parties courtes de 20 minutes et c'est pour de 2 à 4 joueurs joueuses. Le but, c'est de prendre le plus de photos d'animaux sauvages. Donc on a toujours en main 3 cartes avec un paysage dessus et 1, 2 ou 3 trous. À chaque tour, on pose une carte paysage. Donc sous les trous, on voit la carte paysage qui est en dessous. Ça peut être la jungle, la banquise. Si dans un de ces trous, on voit le bout d'un animal, on a le droit de rajouter la photo de l'animal dans son album. Et si on a carrément l'animal en entier, là, on a un perfect shot et on gagne un bonus. Ce qui est sympa, c'est que même avec cette base toute simple, il y a une dimension stratégique. On a des bonus si nos pages d'album remplissent certaines conditions, par exemple que des animaux de la banquise. Et on peut aussi embêter les autres. Par exemple, si je sais que Cyrielle est absolument un animal de la banquise, je vais faire exprès de lui mettre des cartes jungle. Je ne dis pas que je l'ai fait. C'est un petit jeu qu'on a plutôt bien aimé. Par contre, c'est vrai que vu le type de joueuse qu'on est, on n'a pas très bien compris les règles au début. Heureusement qu'il y avait des gens pour nous aider. Entre amis, il y a un plus large choix de jeux. Tout dépend en fait de qui on a comme amis. Ce qui marche bien, c'est le jeu d'ambiance, qu'on appelle aussi le...
Party Game !
C'est un jeu court, avec des règles simples, peu ou pas de stratégie. L'important, c'est de s'amuser. Donc le très connu, c'est le Pictionary. Pour rester dans le thème du dessin, il y a un jeu plus récent qui s'appelle Esquisser, qui est un peu comme un téléphone arabe, mais avec des dessins. Et bien sûr, si on a des amis ou qu'on fait partie d'une communauté de joueurs ou de joueuses fans de jeux de société, on va avoir un plus large choix de jeux, mais ça, je laisserai Brian en parler.
Retrouvez le Club des Platistes en podcast sur prune.net.
Merci Azilis pour cette chronique et cette transition toute trouvée. Donc effectivement, Brian va maintenant nous présenter les communautés de joueurs.
Alors, salut amis joueurs, joueuses et in-between. Une communauté de joueurs, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi bien le petit groupe d'amis que l'on se crée avec qui on joue tous les dimanches après-midi, mais ça peut aussi être un groupe, au sens plus large, un nombre de personnes qui se rejoignent, mais pour faire quoi ? Mais pour jouer, bien sûr. On ne se connaît pas forcément, et pourtant on vient tous pour la même chose. S'amuser, être dans une communauté de gens passionnés par les mêmes univers. Et oui, chaque communauté n'est pas le même. Tout le monde a son appétence. Certains vont préférer rentrer dans des univers plus fantasy, ou bien plus science-fiction, d'autres se rejoignent autour de thèmes plus historiques. Ce qui m'amène à mon prochain sujet, les GN, le jeu de rôle grandeur nature. Ça a toujours été un monde, moi, qui m'a fasciné. Un regroupement de personnes qui se retrouvent pour une après-midi ou un week-end. En arrivant, on laisse tomber le costume de comptable ou sa mallette d'avocat pour enfiler des oreilles d'elfe, remplir ses potions, attraper son épée, son bouclier et partir pour une quête épique. Les GN, ce sont des regroupements de gens passionnés par l'univers proposé. Les organisateurs sont pour la plupart bénévoles et les participants participent à hauteur d'entre 60 et 100 euros le week-end. Certains peuvent monter jusqu'à 250 euros selon le logement ou la nourriture. Il y a quelques gros organisateurs de GN comme Candoria, qui propose des GN plusieurs fois dans l'année. C'est assez drôle, dans les journaux on peut retrouver des articles qui racontent « Le jeu de rôle grandeur nature Candoria bat son plein sur le domaine du château de Serran, à Saint-Georges-sur-Loire, près d'Angers. Plus de 2000 personnes y participent. Jouer, mais en grandeur nature, incarner un elfe, un nain, un magicien pyromane ou un guerrier sanguinaire. C'est la promesse des chroniques de Candoria, le plus grand jeu de rôle grandeur nature de France. » Pour l'histoire, Candoria est une île. Des colons installèrent les premiers bateaux dans un port naturel, dans l'embouchure d'un fleuve. C'est là que la ville fictive d'Endenoria a été construite. Depuis, de nombreuses tribus convoitent l'espace. À la base, chaque personnage est un humain, mais il lui est possible d'acheter des archétypes, des compétences ou des sorts. Batailles épiques, quêtes et aventures en tout genre rythment ces trois jours. Candoria, c'est un univers fantasy, mais il en existe un paquet. Jeu de rôle grandeur nature pour les fans de vampires, grand jeu de rôle sur la légende de Conan, ou bien même sur des reconstitutions de batailles historiques. Alors, comment ça se passe, toi, si tu veux rejoindre un GN ? J'étais à la rencontre d'une joueuse de grand jeu nature, Sophie, qui a pu répondre à mes questions. Certains ont le même personnage depuis 10 ans, ou d'autres, grand jeu nature, te font remplir un questionnaire sur tes préférences. Est-ce que tu vas plutôt te mettre des points en magie, en combat, en lance, en épée, en arc ? On te demande aussi tes triggers, quels sont tes sujets que tu ne veux pas aborder ? Ça peut être la grossesse, le harcèlement ou autre. Souvent, la plupart des nouveaux joueurs sont amenés par un ami. C'est quand même plus facile de savoir qu'il faut ramener une tente et des oreilles d'elfe, ou en tout cas un costume. Alors moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est cet aspect « je ne suis plus vraiment moi-même pour un week-end ». Une fois qu'on a enfilé nos costumes, je ne suis plus Brian, mais Armageddon. Guerrier niveau 26, avec une fâcheuse tendance à guerroyer plus souvent au bar que sur le terrain. Bon, finalement, c'est pas aussi éloigné de la vérité. Alors Sophie, joueuse de GN, me racontait que c'était la fiche personnage qui dictait les missions, les liens de parenté ou autres. Il faut donc vraiment jouer le jeu et faire genre que cette personne que tu viens de rencontrer, c'est bien ta femme avec qui tu vis depuis 25 ans. Une fois le costume enfilé, on ne sort plus de son rôle, à part exception particulière. Dans ce cas, on lève le point et tout le monde sait que je parle en tant que Brian et non pas en tant qu'Armageddon. Ton personnage, que tu l'es depuis une soirée ou 10 ans, il faut y faire attention. Des points de vie sont attribués aux joueurs au début et sa survie ne dépend que de toi. Mais comme me dit si bien Sophie, dans les GN, il vaut mieux une belle mort qu'une mauvaise vie. Et c'est pas tous les jours facile de rentrer dans son personnage, mais tout comme d'en sortir. Sophie m'a expliqué ce que c'était le bleed-in et le bleed-out. Alors bleed, saigner en anglais. Bleed in, bleed out, saigner de l'intérieur, saigner de l'extérieur. Le bleed in, c'est lorsque tu es dans un personnage, mais que ta réaction, ton émotion se joue par rapport à ton toi réel. Le bleed out, c'est l'inverse. Imagine, après une longue campagne éprouvante et réussie, tu fêtes ta réussite avec tes camarades. Il est ensuite temps de rentrer chez soi, et là tu découvres que Galamead, ton soupirant orc, s'appelle Patrick. Patrick, mais t'es flic ? Eh ouais, alors ce deuxième rancard, on se le fait quand ? Alors c'est-à-dire, Patrick, tu sais que notre rancard sous l'Yggdrasil, à l'heure de la mouette zébrée, c'était pas vraiment la réalité ? Bon, bref, vous avez compris, le bleed out, c'est quand ton personnage fictif réagit dans la réalité. Amateurs comme vétérans, il y en a pour tout le monde, et pour les plus passionnés, on trouve des cours d'escrime ludique. On y apprend à esquiver, à parer, à attaquer avec une épée en mousse. On est prêt pour notre week-end, nous, en tout cas, pour aller dans un fort napoléonien. Quand on arrive, 5 semi-remorques remplis de matos, ça vend du rêve. Alors les GN, c'est du pas sérieux dans une organisation très sérieuse. Ça, c'est de la communauté, pour revenir au sujet principal. En tout cas, je remercie Sophie pour son aide sur ma chronique, et pour la citer une dernière fois. La différence entre un pratiquant BDSM et un joueur de GN, c'est que le joueur de GN s'habille de cuir et a des jouets en latex. L'autre s'habille en latex et a des jouets en cuir. Eh, regarde papa, j'ai dit BDSM à la radio. Bon, en tout cas, j'ai de la chance, Sophie m'a proposé de participer à un prochain GN. Et alors vous, ça vous tente ?
Oui.
Oui.
j'ai déjà participé et c'était bien, donc oui, j'en ferai bien.
Et tu nous avais pas invités ?
Eh non, j'ai été très méchant à l'époque. Je suis pas sûr que je vous connaissais déjà, je ne sais plus.
Ah, l'excuse ! On dirait de la triche.
C'est un peu de la triche, voilà.
Et pour terminer cette chronique, je vais vous laisser sur cette musique de Billy the Kick and Crowdy qui parle d'EGN.
Anal, Nafrar, Urvas, Besed, Dorien, Dienve.
Merci Brian pour ta chronique. Et nous venons d'écouter Billy the Kick en Crowdy. C'est maintenant mon tour d'entrer dans le game.
C'est le game.
Je vais maintenant vous parler de la manière dont certains jeux s'adaptent à d'autres profils de joueurs. Pour commencer, laissez-moi m'attarder sur un jeu qui a pour moi fait partie de ceux qui ont marqué le renouveau ludique il y a quelques années. J'ai nommé Seven Wonders. Ce jeu qui nous donne pour mission de construire des merveilles mythologiques en se passant des cartes de joueur en joueur. On reçoit une série de cartes, on en prend une et on passe les autres au suivant, conscient que certaines qu'on laisse pourront se retourner contre nous. Pendant la partie, le négoce des ressources nécessaires au développement est possible entre voisins immédiats. Quand les trois paquets de cartes correspondant à trois âges ont été joués, les joueurs totalisent leurs points dans différents domaines, civil, scientifique, commercial, militaire, état d'avancement. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Ce jeu se joue de 3 à 7 joueurs. Sorti en 2010, il s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Traduit dans une trentaine de langues, aujourd'hui une vente sur deux se fait aux États-Unis, mais on en trouve aussi en Asie, en Europe de l'Est, Scandinavie. Seven Wonders a été créé par Antoine Boza, l'un des rares créateurs ludiques à vivre de sa passion. Après la sortie du jeu, il a quitté son métier d'instituteur. Il partage un local avec un autre auteur et sa femme, illustratrice de bande dessinée. Il a plusieurs projets en cours et nul doute qu'il pourra continuer à nous surprendre. Seven Wonders a connu deux jeux dérivés. Le plus récent, Seven Wonders Architect, sorti en 2021, est un nouveau concept du jeu de base. Les règles ont été modifiées pour le rendre plus accessible. Certaines mécaniques, telles que le tirage de cartes ou la construction de merveilles, ont été modifiées. Mais réunir 7 joueurs n'est pas aisé pour tout le monde. C'est pourquoi Seven Wonders Duel a été créé pour permettre de partager l'expérience Seven Wonders à 2 joueurs. Seven Wonders Duel est un jeu de cartes évolutif, réalisé par Bruno Catala sur le thème de Seven Wonders. Il constitue un jeu à part entière et indépendant de Seven Wonders Classic, afin de permettre de jouer à 2 joueurs. Sorti en 2015, il dispose de 2 extensions, Panthéon et Agora. Mais que faire si jouer à 2, c'est encore trop?
Dans la cour d'école, au ballon prisonnier, on te choisissait toujours le dernier.
À la Marelle, il y a des VIP dans les maternelles, comme en boîte de nuit.
Pas avec moi. Aurais-tu y aller? Il aurait dû le faire, crois-moi.
Un jour on glisse, un jour on sourit. Un jour on rit, un jour on oublie.
Je joue de la musique,
un on peut te jouer avec moi.
Je joue pour que l'on s'aperçoive que je traîne par là.
Ton petit jeu ne fonctionne pas sur moi.
Et je t'attends.
Cet extrait a illustré quelques profils de joueurs, notamment le solitaire. Pour moi, le jeu rime avec partage. Mais il existe des jeux créés spécialement pour jouer en solo. Et je ne parle pas des jeux de cartes qui étaient, il y a quelques années, installés sur tous nos ordis. Voici 2 exemples. Vendredi. Vendredi est un jeu de société de stratégie, accessible dès l'âge de 10 ans, pour des parties de 20 minutes environ, et jouable en solo uniquement. Vous l'avez deviné, on incarne Robinson. Vendredi est un jeu de société de stratégie, qui utilise comme mécanique de jeu principal le deck building. Pour gagner, vous devez réussir à construire le meilleur deck possible afin de survivre sur l'île, pour vous échapper et affronter les terribles pirates. Un autre jeu, Palm Island. Celui-ci peut se jouer tout seul ou à 2 également. Palm Island est un jeu de société de stratégie accessible dès l'âge de 12 ans, pour des parties de 15 minutes. Palm Island est un jeu de société compétitif, qui utilise comme mécanique de jeu principale la gestion de main et la combinaison. Pour gagner, vous devez réussir à utiliser au mieux les ressources de vos cartes afin d'améliorer votre village et marquer le plus de points de victoire possible. Tenant dans la paume de la main, Palm Island est un tout petit jeu pour un tout petit prix, qui va vous demander de mettre en place de grandes tactiques pour sortir victorieux. Idéal pour une partie en solo dans les transports et faire passer le temps plus vite. Enfin, certains jeux peuvent évoluer et s'adapter à différents profils de joueurs. Voici un exemple de jeu de compétition qui devient coopératif. Carcassonne, ombre et brouillard. Un épais brouillard s'étend sur les prairies de Carcassonne, engloutit des fermes entières et se glisse jusqu'aux remparts de la cité. Même les plus valeureux chevaliers tremblent et leurs armures cliquettent
en entendant le récit des moines. Le brouillard fait ressortir les âmes des cathares qui ont été chassées pendant les croisades. Elles reviennent pour que justice soit faite. Carcassonne, ombre et brouillard est une version coopérative du célèbre jeu de placement de tuiles Carcassonne. En travaillant ensemble, vous placez les tuiles et marquez des points tout en essayant d'arrêter la propagation des fantômes, de contenir le sol hanté dans les cimetières et d'utiliser les châteaux hantés à votre avantage. Redécouvrez Carcassonne sous un nouvel angle et ensemble, stoppez l'invention des fantômes. Sorti en octobre 2022. Et on est toujours sur Prune 92 FM. On écoute le club des platistes. On a attendu toute l'émission et ça y est. On va enfin pouvoir jouer. Le jeu d'aujourd'hui s'appelle Mascarade. Et comme je l'ai découvert il y a que quelques minutes, je laisse la parole à Brian pour le présenter.
Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Alors, Mascarade, c'est un jeu aux éditions Repos Productions, sorti en 2013, qui a été nommé à l'As d'Or Jeu de l'année en 2014. Alors, Bruno Feduti, ça ne vous parle peut-être pas, et pourtant vous avez sans doute un jour joué, si ce n'est entendu parler d'un de ces jeux. Diamant, est-ce que ça vous parle ?
Non.
Non. Le Roi des Nains ?
Oui !
Ah ! Ou bien Citadelle ?
Oui !
Certes. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Le jeu est dans la pratique terriblement simple, pour ne pas dire simpliste. Par contre, il offre une subtilité intellectuelle qui va ravir les plus fourbes, moi par exemple, les plus manipulateurs, les risque-tout, qui aiment tenter le diable. Mascarade est un jeu de cartes, mais sans en être un. Vous n'allez pas avoir une main et les jouer au centre de la table, les joueurs vont avoir un rôle caché que parfois même eux ne savent plus qui ils sont. Les illustrations sont colorées, riches et baroques, en tout cas, moi j'adore. Mais concrètement, comment ça se joue ? Le but du jeu, finir avec 13 pièces. Tous les joueurs commencent avec 5 pièces et ont un rôle qui est découvert face aux autres. Donc, chaque joueur va avoir 3 possibilités à son tour. Première chose, pouvoir échanger sa carte ou non avec celle d'un des autres joueurs. Donc moi, Brian, je vais attraper ma carte, j'en veux plus, et je veux celle de Cyriel. Je l'attrape et je vais échanger sous la table. Donc Cyriel ne sait pas si j'ai vraiment échangé ou pas. Deuxième option, je m'annonce. Je dis, je suis le roi. Et j'active le pouvoir du roi à ce moment-là. Ou troisième option, plein de gens ont mélangé ces cartes avec la mienne. Je ne connais plus ma carte, je prends ma carte, je regarde ma carte. Alors, parmi ces personnages, il y en a plusieurs pour pouvoir atteindre ces 13 pièces. Il y a le roi, qui lui permet de gagner 3 pièces, la reine, qui permet de gagner 2 pièces, le voleur, qui permet d'attraper une pièce à son voisin de droite et à son voisin de gauche, l'évêque, qui vient voler au joueur le plus riche 2 pièces. En tout cas, il y a plein de personnages, puisqu'on peut jouer jusqu'à 12. On peut jouer de 2 à 12, et il y a des règles spéciales pour les jeux à 2, à 3, et à 4. Nous ici à Prune, on est 4 joueurs, donc on a pris 6 cartes personnages. Chacun d'entre nous avons une carte personnage et 2 sont au milieu. Nous avons déjà fait un premier tour de jeu où nous avons échangé ou pas nos cartes. Donc même moi là en ce moment, je ne sais plus trop quelle carte j'ai. Normalement on joue jusqu'à 13 points, là on s'est dit jusqu'à 9 points pour pouvoir faire juste à peu près 2 tours et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais laisser Gildwen commencer. Gildwen, est-ce que toi tu te souviens de ton personnage ?
Je ne m'en rappelle pas, c'est pour ça que je pense que j'ai le droit d'échanger encore.
Tu as tout à fait le droit d'échanger. Donc Gildwen échange ma carte avec la sienne.
Échange ou pas d'ailleurs, on ne sait pas.
Ou pas.
Moi j'ai une petite question, je suis un peu perdue. Est-ce que quand on échange les cartes, personne ne sait ce qui a été échangé ? Ou la personne qui échange a le droit de regarder ?
Alors toi, si tu échanges ta carte, disons que tu ne vas pas regarder les images, mais tu vas regarder les cartes de dos. Donc tu sais, tu prends ta carte de droite et celle de ton autre joueur de la gauche, et tu vas échanger. C'est ça le truc des fois, tu as beau échanger les cartes sous la table, au bout d'un moment, du coup, tu ne sais même plus ce que tu as fait, et tu ne sais même plus quel personnage vraiment tu as. Okay. En général, quand tu as un coup dans le nez pour jouer à ce jeu, c'est un peu compliqué.
Enfin là, je crois qu'on n'aura même pas besoin de coup dans le nez pour ne pas savoir ce qu'on fait. Je dis ça, c'est parce que je comprends jamais les jeux.
Donc Gildwen a fait un premier échange. Cyriel, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as le choix, regarder ta carte, échanger ta carte ou pas avec quelqu'un, ou t'annoncer comme personnage pour utiliser son pouvoir.
Moi, je vais regarder ma carte.
Ok, très bien.
Et je ne vous dis pas ce que c'est.
Azilise, que fais-tu ?
Moi, j'ai envie d'annoncer qui je suis, c'est ouais. ça, pour utiliser mon pouvoir. Donc, je suis une voleuse et j'aimerais prendre une pièce d'or à chacun d'entre vous.
À ce moment-là, là, les autres joueurs, peut-être que nous, on peut se dire « mais c'est moi le voleur ». Et on va voir ce qui se passe parce que moi, je ne sais plus qu'est-ce que c'est ma carte. Donc, je vais dire « non, Azilise, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est moi le voleur ».
Tu me défies ?
Je te défie. À ce moment-là, on montre tous les deux notre carte en même temps.
Ah,
je suis le juge.
Je n'étais pas du tout sûre que j'étais la voleuse.
Puisque je me suis trompée, je mets deux pièces au milieu de la table.
Au tribunal.
Alors que Azilise, du coup, peut utiliser son pouvoir et piquer une carte à Cyrielle et à moi qui
une
sommes présentes de droite et à gauche. Non, des pièces, pardon.
Allez, allez, ramenez-moi la monnaie.
Ah mais non, c'est beaucoup trop injuste. Eh mais c'est Gildouane qui me pique mes pièces pour les donner à Azilise.
Ah, moi, je surveille ce qui se passe dans le
tribunal. Je t'ai donné, normalement.
Ah.
Ah non, j'ai mis au tribunal.
Ah, le tricheur.
Tu serais pas un tricheur. Attention, tu m'as donné deux pièces, là.
Maintenant, c'est à moi de jouer. Et moi, je vais pas faire grand-chose avec ma carte personnage. Donc, je vais tenter avec celle de Cyrielle. Tiens, Cyrielle, envoie ta carte.
Il en a après moi, le fourbette.
Ma pauvre Calimero.
J'échange mes cartes sous la table. Ou pas. Tiens, Cyrielle. On va faire un dernier tour. Gildouane, que veux-tu faire maintenant ?
Bah, il faudrait que j'annonce à un moment donné, donc je pense que je suis le roi.
Alors, ne regarde pas ta carte. Est-ce que quelqu'un veut contredire ?
Oui, moi.
Si personne ne contredit, Gildouane gagne le pouvoir, enfin, sans montrer sa carte.
Et si je contredis et qu'il est le roi, il gagne quand même ?
Il gagne ses trois pièces, ah, et toi, t'en mets deux au tribunal.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, j'avais pas compris ça.
Alors...
Trop tard.
Trop tard, j'ai dit, j'assume. Je suis le roi.
Alors, vous montrez votre carte, vos cartes en même temps. Bravo, Gildouane, tu es le roi, tu gagnes 3 pièces de la
Quel
banque.
Quel bluffeur je fais.
Automatiquement. Et Cyrielle, tu mets 2 pièces au milieu, au tribunal.
Si vous avez su, ce serait pas venu.
J'ai pas fait exprès, je voulais pas échanger mon juge. J'ai vu qu'il était apparu en face.
Si Brian fait la banque, est-ce que tu penses que ça, c'est de la tricherie inconsciente ?
Bah, c'est possible, ouais. On aurait pu, mettre Antoine à la banque.
Ah, je suis trop concentré pour tricher, mais c'est une très bonne idée.
Mais t'as beaucoup de pièces, Gildouane, t'en as combien ?
Bah, ça doit faire 8. Donc, ce n'est pas 9.
Ah, donc plus qu'une pièce. Cyrielle,
oui.
Que fais-tu ?
Bah là, de toute façon, je sais quelle carte c'est, j'en ferai rien. Vous savez aussi ce que j'ai. J'ai pas beaucoup de choix, là, que échanger. Ou
changer.
Pas, ou bluffer,
pas.
Et avec le centre de la table.
Très bien.
Allez, changer.
Ça tourne, ça.
Est-ce que,
oh,
est-ce
je
que
sais
c'est ce qu'elle fait ? Elle me
je
regarde dans les yeux, donc...
Mais oui, mais tu m'as perdu.
Oui,
tu m'as troublée.
Si tu fais comme moi, tu vois, il y a un moment, j'ai plus su ce que je faisais.
Vas-y, Lise.
Alors, on est d'accord que là, je peux réannoncer ce que je suis, même si on l'a déjà vu ? Qu'en penses-tu, Brian ?
Alors là, tu peux essayer de. Oui,
je peux redire. Je suis voleuse et du coup, j'aimerais prendre une pièce.
Ah, c'est avec toi que j'aurais
chacun.
Dû échanger. Ah oh là là, j'ai pas de stratégie.
Une pièce
et
de mon côté.
Et je pense que maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces.
Bien joué, bien joué.
Oh, bravo,
et normalement, on finit juste le tour. Je suis le dernier à jouer. Je dis, je suis le juge.
Oui.
Est-ce que quelqu'un me contredit ?
Non, parce qu'on a de la mémoire quand même.
Et toutes les pièces qui ont été mises au milieu, pour les gens qui sont trompés, je les récupère. Et bon, ça ne fait que 5 pièces, mais bon, c'est déjà pas mal.
Retour au début.
Voilà, on va s'arrêter là parce que le jeu dure un petit peu plus longtemps.
Et puis parce que j'ai gagné.
Et aussi parce qu'Azilise a gagné, tout à fait.
Et bah, merci beaucoup Brian de nous avoir fait découvrir ce jeu. Moi, je vais proposer quelques minutes musicales pour prendre ma revanche.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all
and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Eh bien, nous venons d'entendre ABBA, The Wine Takes It All. Nous sommes toujours sur Prune 92 FM dans le Club des Platistes. En cette fin d'émission, Azilis va nous informer sur l'actualité des jeux de société.
Quoi de neuf ?
Je vais d'abord vous parler d'un jeu de cartes de Bruno Catala et Théo Rivière, qui est un jeu de cartes sur le thème de la mer. On peut y jouer dès 8 ans, c'est des parties de 30 minutes, et on comprend assez vite les règles, donc le temps passe vite. Le but, c'est d'accumuler des points. Et pour gagner des points, il faut déposer des paires de cartes. On a un point si on a deux cartes crabes ou deux cartes bateaux, par exemple. On peut gagner de plus en plus de points en faisant la collection d'autres types de cartes. Les cartes coquillages, pingouins, vous voyez un peu l'idée. Ce qui apporte une dimension stratégique, c'est qu'on choisit si on pioche une des deux cartes visibles ou si on prend le risque de piocher deux cartes et de choisir parmi ces deux cartes. Et puis surtout, ce qui est stratégique, c'est qu'il y a certaines paires de cartes qui ont un effet.
rejouer, piocher, piquer une carte au voisin ou à la voisine. Donc c'est une mécanique assez simple, mais efficace. L'originalité, elle se trouve plutôt dans les illustrations. En fait, donc là j'en montre une, mais vous ne la voyez pas. Chaque carte, c'est une photo d'un origami. Il y a un fond coloré, et dessus, il y a l'élément, le bateau ou le crabe, en origami. C'est un jeu très agréable pour s'occuper sur la plage ou, vu la période, pour les jours de pluie. Alors ce jeu-là, il est sorti en octobre, mais avec Antoine au Festival Paradise, j'ai pu découvrir des jeux qui sont encore en préparation, à l'état de prototype.
Le but du jeu, c'est de se débarrasser des cartes de son talon. Donc tout le monde a le même talon en début de partie, et en trois mots pour résumer le jeu, c'est ambiance, stratégie et coup de théâtre. Y a des effets du style des batailles de pouces, Shifumi, voilà, ça c'est les effets plus ambiance, et il y a des effets un peu plus stratégie dans le sens où, enfin c'est de la petite stratégie quoi. C'est par exemple pour poser les as, il faut avoir le jeton dealer devant soi, mais il n'y a pas assez de jetons pour tout le monde, donc il y a un moment où on va aller s'embêter pour récupérer le jeton, tout ça, voilà.
Alors Julien et moi, on est deux anciens ingénieurs, on s'est reconvertis dans l'édition de jeux de société, on a envie de créer une boîte d'édition de jeux de société, on est en train de créer le projet, etc. Donc on a actuellement deux prototypes qu'on vient présenter dans les festivals, les bars à jeux, etc. Donc on est encore en phase de test, de production. Alors on a ce jeu-là qui s'appelle Elementaria, c'est de l'élevage de créatures mythologiques, où le but du jeu, c'est de produire des œufs élémentaires qui donneront des points de victoire à la fin de la partie. Et on a un deuxième jeu plutôt ambiance familiale, où l'objectif, c'est de faire des burgers avec différents ingrédients qui ont des stats de protéines, glucides et matières grasses. Il y a des objectifs à respecter, des recettes à faire, etc.
Ce mois-ci, on va s'intéresser d'un peu plus près à ce qui se passe à la Fabrique à jeux, un bar à jeux de Nantes. Les mardis 15 et 29, il y aura une présentation des prototypes des jeux Crapule et Crown of Elements, un burger quiz géant le mercredi 16, et le lendemain, le 17, une soirée loup-garou. Il y aura aussi un blind test le mardi 22, et une présentation des nouveaux jeux le mercredi 23. On s'y croisera peut-être.
Eh bien, merci Azilis, l'émission touche à sa fin, mais nous n'allons pas se quitter sans obtenir la réponse de l'énigme d'Antoine.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
Donc je rappelle mon énigme, on est au Texas, au 19e siècle, quatre cow-boys entrent dans un bar, ils s'assoient autour d'une table éclairée par une bougie, et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'ils font ?
Ils boivent des coups.
Peut-être.
Ils soufflent sur la bougie. Ils dansent autour de la bougie. Ils font un rituel autour de la bougie.
Ils essayent d'allumer la bougie.
Ah oui, elle est éteinte ou elle est...
On ne sait pas.
La bougie est allumée.
Ah, la bougie est allumée.
Ils jouent au truc où tu passes ton doigt dans la flamme de la bougie. Très vite, comme ça, tu ne te blesses pas.
Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est la bougie qu'ils font.
Eh ben voilà,
bravo. Oh, mais c'est toujours Gildouane qui trouve.
Mais Gildouane, tu m'impressionnes.
Ah, moi j'aime bien l'énigme. Est-ce qu'on peut faire que des énigmes dans cette émission la prochaine fois ?
Bravo.
Merci beaucoup.
Ah, qu'est-ce qu'ils font, la bouche. Ah, oh, bah oui.
Voilà.
Oh, c'est trop mignon.
Merci beaucoup, Antoine.
Ça aurait pu me tenir un bon moment, ça.
Voilà, mais il fallait couper court à cette émission. En tout cas, voilà.
Il y a un moment, il faut s'arrêter. Il faut se séparer là.
Alors, en tout cas, merci à tous et toutes pour cette seconde émission dans laquelle nous avons beaucoup parlé de parties. Nous avons plus appris sur les différents profils de joueurs et peut-être même sur nous-mêmes. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Notre prochaine émission aura pour thème le genre dans les jeux. Est-ce que tout le monde peut jouer à tout ? Ce sera le dimanche 11 décembre de 13h à 14h, toujours sur Prune 92 FM. 92 FM. On se dit au mois prochain et bon après-midi.
Bon après-midi.
Bye bye, bon dimanche.
Game over.